Avec votre main verte, bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour très chère Karine, bonjour à tous.
Oui, parce qu'hier il n'y avait pas eu de chère
Exactement.
Karine.
Oui, non, mais
j'ai vu très chère Karine aujourd'hui.
J'ai retenu la leçon.
Très bien,
Merci
très bien.
Alain.
Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années.
Et oui, cette maxime de Corneille que nous connaissons tous convient parfaitement à David Douglas, un homme d'exception. Cet homme, justement, est né en Écosse en 1799 d'un père modeste tailleur de pierre. Lui, gamin, se passionne pour les bois, pour les promenades, pour la pêche à la truite, l'élevage des oiseaux, et c'est rare pour un enfant, pour une collection de plantes. À 12 ans, il est engagé comme apprenti chez un aristocrate, puis comme aide-jardinier chez Sir Robert Preston, un noble féru de botanique. Pendant 3 ans, David Douglas apprend le métier et profite de la bibliothèque du domaine pour parfaire ses connaissances en horticulture. Sa compétence est telle qu'il est engagé dès 1820 comme jardinier au parc botanique de Glasgow, et là encore, il est remarqué par William Jackson Hooker, l'un des plus grands botanistes de son temps. Il est alors missionné pour parcourir les États-Unis et le Canada, et il va découvrir, écoutez bien, pas moins de 7000 plantes, j'ai bien dit 7000, certaines introduites en Angleterre puis en France, qui ont considérablement transformé notre paysage.
On sent qu'il vous fascine, on sent qu'il vous ressemble aussi un peu, non? Vous vous identifiez à lui.
Oh, vous êtes fort aimable, je n'aurais pas cette prétention, mais votre comparaison me touche beaucoup.
Alors, de tous les arbres qu'il a découverts, quel est le plus connu?
Le Pseudotsuga melziezi, ou sapin de Douglas.
On peut le redire, attends, juste pour le plaisir, on peut le redire.
Pseudotsuga melziezi.
Très bien.
Il y a des Z et plusieurs I, c'est assez compliqué. Enfin, toujours est-il que c'est un conifère originaire d'Amérique du Nord qui fut introduit en Angleterre en 1827 et chez nous en 1842. Alors cet arbre plaît beaucoup aux forestiers pour sa résistance au froid, sa vitesse de croissance et bien sûr la qualité de son bois. Il est d'ailleurs si apprécié qu'il en est planté aujourd'hui, mais partout et en énorme quantité. En France, ce sont des centaines de milliers d'hectares, à tel point qu'il y en a tant que certains en charge de la protection du paysage se demandent d'ailleurs si on n'en planterait pas un petit peu trop.
Je crois que c'était le Norman qui était le plus nombreux, non?
Non, le Douglas, parce que le Norman, on en plante beaucoup, mais le Douglas, on en porte dans les Vosges, par exemple. Je crois qu'il y en a 420 000 hectares partout en France.
D'accord. Alors, David Douglas a été reconnu par ses pairs et de son vivant.
Oui, mais sa vie fut courte et sa fin tragique. Le 12 juillet 1834, il herborise dans les montagnes d'Hawaï. On retrouvera son corps dans un enclos où était enfermé un taureau connu pour sa dangerosité. On ne saura jamais si sa mort fut accidentelle ou criminelle. David Douglas n'avait que 35 ans.
Alain Baraton, vous allez donner vos conseils et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Louane, à propos de son calathea, les feuilles de mon calathea s'enroulent sur elles-mêmes, elles dépérissent une par une. Alors j'ai entendu plusieurs raisons, dit-elle. Soit il y a trop de lumière, soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau. Bref, que dois-je faire, vous demande Louane.
Déjà, ne pas confondre calathea et cattleya. Cattleya, c'était une plante que Marcel Proust adorait. Et d'ailleurs, dans Un amour de Swann, à la recherche du temps perdu, très exactement.
Ouais.
Quand Swann redresse le cattleya dans le corsage d'Odette, il lui signifie « je veux faire l'amour ». Et oui, faire le cattleya pour Marcel Proust signifie faire l'amour. Je trouve ça merveilleux. Et je l'ai appris dans le Proust érotique de Bernard Soupre et Laurence Grenier aux éditions du Passio, je le dis, parce que c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé, avec des dessins merveilleux. Enfin,
là, vous vous égarez parce que c'est un calathea.
Alors, le calathea, c'est une plante d'intérieur avec des grosses feuilles extraordinaires, très graphiques, très belles. Donc, on le cultive pour le feuillage. Et cette plante a besoin toujours d'une humidité importante. Elle déteste les rayons du soleil direct, comme l'immense majorité des plantes d'intérieur. Elle n'aime pas le soleil pour une raison simple, Karine, c'est que ce sont des plantes qui, dans leur milieu d'origine, vivent protégées par les grands arbres. Donc elles ont besoin d'humidité, de lumière, mais pas de soleil.
Donc on vaporise de l'eau sur les feuilles.
Eh bien, vous avez tout compris, dessus et dessous. Dessous, c'est parfait pour éliminer les petites bestioles. On veille à ce que la plante ne manque jamais d'eau, mais n'en ait jamais trop. Elle est un peu capricieuse.
Un peu embêtante, comme ce qu'on disait là hier sur le l'antana.
Oui, tout à fait. Hein, mais là, le calathea, elle est encore davantage. Il faut vraiment que la plante n'ait jamais soif, mais jamais trop d'eau. Le juste équilibre, et logiquement, ça devrait aller. Mais je crois que le problème de notre ami, c'est le soleil. On la met dans une situation lumineuse, mais jamais, jamais de soleil direct.
Monique vous demande, quelle est la meilleure période pour se débarrasser du liseron dans le potager?
Question passotte. Quand on bêche son terrain, quand on le tourne, on voit les petites racines blanches, elles sont déjà là, prêtes à germer, je dirais, parce que ça se bouturera de manière démentielle, eh bien on les retire à la main dès qu'on les voit, et sinon on l'arrache au fur et à mesure dès qu'il apparaît au printemps.
En quelques secondes, Anne voudrait savoir si les racines d'un laurier rose de 30 ans peuvent endommager les canalisations en fibrociment.
Je vous ai parlé de mon figuier hier qui poussait. Bah,
c'est la même chose.
Pareil. Un dernier conseil pour ce dimanche.
Souvent on me pose la question, c'est quoi un jardin anglais? Toutes les réponses sont dans cet ouvrage merveilleux, mais
c'est
vraiment
beau,
merveilleux.
Surtout.
L'Angleterre des jardins de Francis Peters et Guy Vanderson. Ce sont des spécialistes de ce domaine, journalistes, conférenciers, etc. Très bel ouvrage, joliment documenté, joliment écrit, argumenté merveilleusement, et c'est publié aux éditions Ulmer, 30 euros.
C'était Alain Baraton.